enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Comme vous savez, aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Action de grâce. Est-ce que c'est important de prendre une journée dans l'année pour dire merci? Non. Non. Qu'est-ce qui est important est que chaque jour de notre vie soit une journée d'action de grâce. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est bien de prendre une journée peut-être, mais on ne veut pas tout simplement prendre une journée pour l'action de grâce. Nous voulons que chaque jour soit une journée d'action de grâce. Car l'action de grâce n'est pas une journée dans l'année, mais un style de vie. L'action de grâce est une attitude. L'action de grâce est l'essence de la vie chrétienne. Et c'est pour ça, ce matin, j'aimerais vous proposer la plus grande déclaration d'action de grâce dans la Bible entière. La plus grande déclaration d'action de grâce qu'on trouve dans la Bible, qui est trouvée dans le chapitre le plus connu dans toute la Bible, probablement, qui est le psaume 23. Le psaume 23, où ce qu'on trouve une phrase qui nous dit tout par rapport à une attitude d'action de grâce. Et c'est le psaume 23, le premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La phrase d'introduction d'un des passages le plus renommé, reconnu et répété dans toute la Bible. Mais combien sait que répéter ne veut pas dire compris? Combien sait que de connaître quelque chose ne veut pas dire qu'on le vit comme une réalité? Pour cela, il faut réfléchir. Il faut arrêter et réfléchir sur la profondeur de cette déclaration. C'est une déclaration qui a été déclarée probablement des centaines ou des milliers de fois. Tout le monde connaît le psaume 23, tout le monde connaît cette phrase-là, mais pour vraiment capter l'essence et la profondeur de la phrase, de ce que David dit, il faut qu'on arrête et qu'on réfléchisse la profondeur de cette déclaration. « Je ne manquerai de rien. » Rien. C'est un saint refus de vivre une vie hantée par le manque ou la perte. C'est un saint refus d'être plus conscient de ce que je n'ai pas ou de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai. C'est une phrase qui exprime l'ultime attitude de gratitude pour ce dimanche d'action de grâce. C'est comme si David disait, « J'ai le Seigneur comme berger, je possède Jésus. » Alors, ma vie est comblée. Je n'ai besoin de rien d'autre pour me rendre heureux, rien d'autre pour que ma vie soit complète. Elle est complète par la présence de Christ. Elle est complète parce que l'Éternel est mon berger. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je ne manquerai de rien. Ni l'affection, ni l'appréciation, ni l'argent, ni la reconnaissance, ni la joie, le plaisir, le repos, oh, rien. Combien ici pourrait dire cela? Combien pourrait dire qu'il vit une vie libre du manque, libre de la convoitise? Il n'y a pas une main. Ma main non plus. Mais imaginez une vie complètement comblée. Sommes-nous rendus à un niveau dans notre relation avec Jésus qu'il est tout pour nous? Est-ce que moi je suis rendu à cet endroit-là? Ou est-ce que Jésus est tout pour moi? Je n'ai plus de besoin, plus de manque, plus de convoitise. Parce que j'ai Jésus. C'est une chose de crier contre la convoitise, mais ça donne rien. Ça donne rien de crier contre la convoitise, de corriger, de parler contre la convoitise, si on n'a rien pour la remplacer. La seule remède pour la convoitise et le manque, c'est de le remplacer par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ma prière depuis le mois de juin passé. Et plus qu'une prière pour moi, elle est devenue une cible pour moi. une cible, un but pour ma vie. D'être rendu où ce que Jésus comble ma vie. Je veux de plus en plus laisser Jésus combler les trous dans ma vie, le manque que j'ai dans mon cœur, que je n'essaie pas de combler le manque dans ma vie avec mille et une autres choses que Jésus, la présence de Dieu. Pourquoi j'ai pris cette prière le mois de juin passé? Parce que ça se donne, parce que Claude et moi, avec une équipe de pasteurs et d'étudiants et de personnes de l'Église, étaient en Israël et on était avec, à un moment donné, une journée, on était avec une spécialiste sur la vie de David. Puis nous a emmenés sur une montagne avec un regard sur le désert où David se promenait, se réfugiait, se cachait et où il a crié plusieurs de ses psaumes. Et supposément, à un moment donné, on regardait sur l'endroit précis où il a écrit le psaume 23. Et à cet endroit-là, nous avons fait la lecture du psaume 23 avec un moment de réflexion sur les paroles de David. Et ce qui nous a frappé, c'est que David a écrit ces mots pendant qu'il se promenait dans le désert. Quand on voyait le désert, un lieu sec, un lieu vide, un lieu aride, un lieu dur, c'est là que David, entouré par le manque, a écrit ces mots d'action de grâce, de louange et de grande foi. Il était là dans le désert où ce qui manquait tout et il a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Grande déclaration de foi. J'imagine qu'il voyait ses brebis puis il disait, je suis responsable pour ces brebis dans le désert, mais le Seigneur, l'Éternel, est responsable pour moi. Alors, je suis convaincu que peu importe mon environnement, mes circonstances, mon entourage, que malgré le manque qui est tout autour de moi, je ne manquerai de rien. Un peu comme un parent qui porte le fardeau de la responsabilité pour ses enfants. Il peut peut-être trembler, on peut peut-être avoir un fardeau sous les responsabilités de cela. Mais là, on voit les enfants et on dit, « Je suis responsable pour eux, mais Jésus est responsable pour moi. Je vais pouvoir protéger et prendre soin d'eux, mais Jésus va pouvoir protéger et prendre soin de moi. Même si tout n'est pas parfait, même si je me trouve dans un lieu de manque, je sais que le Seigneur va prendre soin de moi. Et c'est ce que je prie. Depuis ce moment-là, sur la montagne, au-dessus du désert, je prie cette prière pour moi. Je dis, je veux, Seigneur, être reconnaissant et confiant. Malgré le manque dans ma vie, malgré les manquements flagrants, malgré la souffrance, la pauvreté, la maladie, je veux dire comme David dans le désert, « Je ne manquerai de rien. » Quelqu'un dirait à David, « Tu ne manques de rien. Regarde autour de toi. Tu manques de tout. » Mais c'est là la déclaration de l'action de grâce et de foi. « Je ne manque à rien dans le présent et je ne manquerai rien dans le futur. » C'est l'action de grâce mêlée avec la foi. Je sais que je suis bien en ce moment et je ne m'inquiète pas pour demain parce que si le Seigneur a pourvu pour moi aujourd'hui, il va pourvoir pour moi demain. Action de grâce et la foi même dans le désert. Comprenez que David n'a pas dit ces mots parce qu'il était toujours près des eaux paisibles et le vert pâturage. Il a écrit ces mots même quand il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, « Je ne manque à rien. » Le psaume 23, 2 et 4. « Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quelle déclaration de reconnaissance et de foi, que ça va bien ou mal, que ça soit la montagne ou la vallée, que ça soit les eaux paisibles ou ça soit la vallée de l'ombre de la mort, un lieu de crainte, un lieu de douleur, pas de différence. Je refuse de craindre quoi que ce soit, parce que l'Éternel est mon berger. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je désire arriver à cet endroit dans ma vie spirituelle. D'être tellement comblé, reconnaissant, confiant, que je puisse déclarer avec David d'une façon sincère, je ne manque de rien. Je n'ai pas tout ce que mon cœur peut désirer. Je n'ai pas toutes les richesses dans le monde. Il y a mille et une choses que j'aimerais acquérir, régler, corriger, améliorer dans ma vie, mais l'Éternel est mon berger quand même, je ne manquerai de rien. C'est une des clés pour la vie joyeuse, une des clés pour la vie victorieuse. C'est justement d'être reconnaissant pour le moment, de trouver le bonheur dans le moment, de voir chaque moment, chaque jour comme un don et une grâce que le Seigneur nous donne et dire aujourd'hui, que ce soit les eaux paisibles ou que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, je suis bien, de vivre dans le présent. De refuser de s'inquiéter pour l'avenir, de refuser d'être préoccupé par ce que je manque, par qu'est-ce que j'ai pas atteint, par qu'est-ce que j'ai pas devenu encore, de dire je suis que je suis, mais je suis heureux parce que Jésus est avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'écrivain d'Ecclésiaste, il le dit de cette façon, en Ecclésiaste 9:4, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qui veut dire quoi? C'est bien exprimé. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas grand-chose, mais au moins j'ai la vie. Mieux un chien vivant qu'un lion mort. Puis il y a bien des gens dans notre société, il y a bien des lions aujourd'hui, des grands, des forts, des vedettes, des gens d'importance et d'influence qui n'ont pas la vie. Ils ont peut-être des lions de la société, mais sans Jésus, ils n'ont pas la vie. Et quand on les voit, il ne faut pas être envieux de eux, il ne faut pas convoiter qu'est-ce qu'ils ont. S'ils ne connaissent pas Dieu, il faut avoir pitié d'eux, il faut prier pour eux, et il faut être reconnaissant pour ceux que nous avons. On est peut-être rien qu'un chien, mais nous avons la vie. Et si nous avons Jésus dans notre vie, on n'est peut-être pas grand-chose, mais non seulement qu'on a la vie, on a la vie abondante, et j'ai la vie éternelle. Mieux un chien vivant qu'un lion mort. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? J'ai la vie abondante, la vie éternelle. Les gens peuvent me traiter de qu'est-ce qu'ils veulent, mais j'ai la vie. Ecclésiaste 6:3, ça le dit de cette façon. Quand un homme aura 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassaisie de bonheur, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est un peu une façon choc de le dire, mais essaie de passer un message. Il dit, si quelqu'un n'est pas capable de se jouir de la vie, il aurait été préférable qu'il soit mort à la naissance et qu'il ne voit jamais la lumière du jour. Parce que qu'est-ce qui compte dans la vie n'est pas la quantité, mais la qualité. C'est la qualité de vie et la vraie qualité. De vie vient par un cœur qui est reconnaissant, par un cœur qui réalise qu'est-ce qu'il a. Il a la présence du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la qualité et non la quantité. On peut avoir 100 fils, on peut avoir l'abondance, on peut avoir la prospérité, on peut vivre longtemps, mais si on ne vit pas dans le bonheur, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce pour le moment, il dit, on n'a rien. C'est la qualité et non la quantité. La meilleure qualité vient d'un cœur reconnaissant. Et c'est l'essence de ce que David disait. Je ne manque de rien. Toute une déclaration. Car la manque est une force puissante. C'est ce qui nous rend humains. Manque. La réalité du manque est évidente partout parmi l'humanité. Le manque est l'essence de la condition humaine. Le manque, la convoitise, le désir, le besoin, c'est ce qui fait de nous des humains. Alors de dire « je ne manquerai de rien » est une déclaration puissante. Vous remarquez que quand un bébé arrive dans ce monde, il arrive en pleurant et non en souriant. Vous remarquez cela? 100% des bébés arrivent dans le monde non en souriant, mais en criant. Non en riant, mais en pleurant. C'est comme ça qu'un bébé arrive dans le monde. Ça veut dire que tout de suite, en partant, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un bébé qui arrive souriant, prêt à faire face à la vie. Il ne sait même pas pourquoi. Qu'il pleure, mais il pleure. Dès le premier moment, c'est comme si l'enfant est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si le bébé est conscient de son manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, chaque bébé crie et pleure quand il arrive dans le monde. Et j'ai l'impression que le restant de nos jours sont vécus dans la poursuite des choses. Quelque chose, n'importe quelle chose, pour remplir le vide, pour remplir le trou dans notre cœur, pour combler le manque. c'est comme si on arrive dans le monde puis on réalise, j'ai besoin de quelque chose. On crie, on pleure, on veut combler un manque dans notre vie et tout le reste de nos jours, on cherche à le combler. On court et court, on travaille, on transpire, on poursuit, on chasse, on combat et on grimpe pour posséder, obtenir, avoir, accumuler des postes, des titres, des possessions, des choses, des bébés, des bijoux, des jouets, n'importe quoi pour combler le manque. On vit comme si celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. C'est ce que Jacques a compris. L'apôtre Jacques, dans son épître, il a compris cela, justement. Le combat de posséder, de convoitise, d'essayer de combler nos vies avec quelque chose pour remplir le trou. Jacques, il a compris, il a dit en Jacques, chapitre 4, les premiers versets. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas ça de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques a compris le malheur d'avoir une vie qui de manque, une vie qui convoite, une vie qui désire toujours plus. Et il dit ça peut même affecter nos prières où ce que nos prières sont égocentriques et c'est toujours pour obtenir, obtenir, avoir et plus et plus et plus. À un moment donné dans nos prières, il faut être reconnaissant, il faut arrêter et dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Je suis reconnaissant pour ce que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour ta présence. Et juste laisser le Seigneur combler le vide à l'intérieur afin qu'on peut être libéré de cette angoisse et ces luttes et ces combats et ces convoitises. Dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Parce que selon moi et selon Jacques, j'ai l'impression, le sentiment de manque qui est commun à toute l'humanité est la racine de plusieurs maux. L'Ecclésiaste 6:9, il décrit de cette façon. Il dit, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Il dit, mieux être reconnaissant pour ce que nous avons, d'être toujours agité parce qu'on veut avoir plus, parce qu'on est conscient de ce qu'on n'a pas. J'ai besoin de ça, un petit peu plus, quelque chose d'autre, si ça peut arriver dans ma vie. Il dit, l'agitation des désirs, mieux voir qu'est-ce que vous avez entre vos mains, être reconnaissant et comblé par ça, que d'être agité par les désirs. Et comprenez, l'ennemi de notre âme se sert de cela pour introduire une multitude de pensées négatives, d'actions destructives dans nos vies. Il se sert de ce manque et ce sentiment de manque pour nous agiter et pour semer une malaise chez nous. La racine de plusieurs mots, l'agitation. Il y en a qui vont dire, Pasteur Marc, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10, c'est ce que ça dit et c'est vrai. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et ça, c'est vrai. Mais d'où vient l'amour de l'argent? Ça vient par un sentiment de manque. D'où vient l'avarice et le matérialisme? L'avarice et le matérialisme et l'amour de l'argent est causé par la pensée qu'on manque des possessions, qu'on manque la sécurité pour l'avenir, qu'on manque l'admiration. C'est par un manque d'estime de soi où ce qu'on va exploiter le manque des autres. On va dire, moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Ça c'est matérialisme. Vous savoir c'est quoi l'essence du matérialisme? C'est d'acheter des choses qu'on n'a pas de besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Exploiter le manque des autres. Et matérialisme ne veut pas dire richesse. Il est possible d'être pauvre et d'être matérialiste. Il est possible d'être riche et ne pas être matérialiste. Matérialisme ne veut pas dire richesse. Mais matérialisme veut dire j'ai toujours besoin d'autres et de plus pour trouver le bonheur. Savez-vous combien d'argent vous avez besoin pour être content? Un petit peu plus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Combien aimerait un petit peu plus? Un petit peu plus. Puis ça, c'est juste un des symptômes. Les symptômes du manque sont plusieurs. C'est le manque qui est la source et la racine de l'avarice et matérialisme, mais c'est aussi le manque qui est à la racine du stress et de l'inquiétude. Quand vous êtes dormi sur votre lit la nuit, toutes les lumières sont fermées, et là, tous les monstres des inquiétudes viennent attaquer vos pensées et le stress. C'est quoi ça? C'est parce qu'on pense qu'on manque du temps, on manque de l'argent, on manque des réponses à nos problèmes. Est-ce que ça vous arrive, ça? Ou c'est rien que moi? Ça vous arrive? On manque, c'est le stress, c'est l'inquiétude. Quand on est jaloux et envieux, c'est parce qu'on manque ce que l'autre possède. Nous voulons voir qu'est-ce qu'un autre possède, parce qu'on dit, on le manque ça dans notre vie, ça crée la jalousie et l'envie. Qu'est-ce qui nourrit l'industrie du sexe aujourd'hui? Le fléau de la pornographie, la prostitution, c'est un manque d'intimité, un manque de compagnon, un manque du sexe. Le vol, c'est le manque des choses que nous voulons et n'avons pas. Alors, on va aller les prendre. Le viol, le manque d'estime de soi, de confiance, de masculinité, de respect. La violence, c'est parce qu'on pense qu'on manque d'autres moyens pour obtenir ce que nous voulons, alors on va le prendre par la violence. Qu'est-ce qui est la racine de la colère? Un manque de patience, peut-être le manque d'un père, le manque d'affection, le manque d'une enfance normale. Il y a des gens qui vivent avec une rage à l'intérieur de eux parce qu'ils croient qu'à quelque part dans leur vie, ils ont manqué quelque chose. Ils ont manqué qu'est-ce que les autres ont eu. Ils ont manqué dans leur enfance. Et ce sentiment de manque crée une colère et une rage à l'intérieur d'eux. La racine des mensonges, c'est le manque de courage de faire face à la réalité. Alors, on préfère mentir. La dépendance sur la drogue et l'alcool, c'est parce qu'on manque le high, l'extase, le rush. On manque le courage pour faire face à la réalité de la vie. Alors, on veut se sauver dans la drogue ou l'alcool. Qu'est-ce qui est la racine du suicide? La racine du suicide parmi les jeunes, c'est un manque d'espérance. Il manque de l'espoir. Il manque d'espérance pour l'avenir. Ça vaut pas la peine de vivre. Il y a rien qui est devant moi. Il manque de l'espoir. Parmi les personnes plus âgées, c'est un manque, on manque notre jeunesse. Les gens pensent, on a manqué notre rêve, on va jamais rattraper le passé. On est passé à côté, on a manqué quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir. Et ça, c'est la racine du suicide, la dépression. Qu'est-ce qui est la racine et la source de la dépression? C'est un manque d'affection, un manque d'amis, un manque de l'argent, un manque de fun, de vigueur, d'opportunité, d'appréciation, de passion, de but. La racine de la dépression, c'est parce qu'à quelque part, on croit qu'on manque quelque chose. Ça nous décourage et ça nous déprime par ce sentiment de manque. L'adultère. Qu'est-ce qui est la racine de l'adultère et la convoitise et de l'adultère? C'est le sentiment d'un manque d'amour. Manque de passion, manque d'aventure, manque de romance, manque du sexe, point, ou manque de notre jeunesse, des hommes qui veulent savoir s'ils poignent encore. Rattraper mon adolescence, rattraper ma jeunesse, rattraper les années de liberté que j'avais, parce que je manque cela. Alors, on voit que la racine de bien des mots, c'est ce sentiment qu'on manque quelque chose, ou nous avons manqué quelque chose, ou nous avons perdu quelque chose. C'est pour toutes ces raisons que Paul nous dit qu'un cœur ingrat est un cœur ténébreux et noir. Romains chapitre 1, versets 21 et 22, remarque ces mots puissants de l'apôtre Paul au sujet de l'importance de la reconnaissance. Et le cœur de quelqu'un qui est ingrat, Romains chapitre 1, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. L'apôtre Paul il dit, quand on a un cœur qui n'est pas reconnaissant, c'est comme si notre cœur a été plongé dans les ténèbres, sans la reconnaissance. On est plongé dans les ténèbres de la colère, la déprime, l'envie, l'amertume, l'angoisse, même parmi les chrétiens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Ayant connu Dieu! Ils ne l'ont point rendu grâce. Il ne parle pas des gens éloignés de Dieu. Il parle de vous et moi, des gens qui ont connu Dieu et qui connaissent Dieu. Et quand je vois ça, je tremble. Je tremble en moi. Parce que ça veut dire qu'il est possible de connaître l'Évangile, connaître Dieu, avoir et quand même avoir une vie tachée par l'ingratitude. Il est possible de connaître Dieu, mais de comparer nos bénédictions avec les bénédictions des autres, notre ministère, nos possessions, nos opportunités avec les autres. Et on se décourage parce que nous sommes plus conscients de notre manque que notre richesse, de ce que nous avons que de ce que nous n'avons pas, et les conséquences sont graves. Ça dit que ça plonge nos pensées dans l'enfer de la convoitise insatiable. Manque de reconnaissance nous plonge dans la noirceur de la pitié de soi, l'amertume, la critique, la misère, la comparaison, la jalousie et l'envie. C'est un esprit qui méprise ce que nous avons par rapport à ce que nous n'avons pas. Et au lieu de compter nos bénédictions, on compte les bénédictions des autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous met en garde d'un cœur qui est ingrat, un cœur qui manque la reconnaissance, parce qu'il dit sinon, on les plonge dans les ténèbres, puis il y a toutes sortes de symptômes et résultats qui nous détruisent par la suite. Fais attention. Mais s'il est vrai qu'un manque de reconnaissance peut plonger nos cœurs dans les ténèbres et nous égarer, la bonne nouvelle est qu'il est aussi vrai que l'action de grâce peut nous sortir du ténèbre et nous remettre sur le bon chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si un cœur ingrat me plonge dans les ténèbres, ça veut dire qu'un cœur qui est reconnaissant, un cœur qui est rempli de louanges, un cœur d'action de grâce, ça veut dire que ça va me sortir des ténèbres, ça va me mettre sur le bon chemin. Il est possible que le cœur rempli des ténèbres peut voir la lumière du jour par l'action de grâce. Et c'est pour cela que ma prière, ce dimanche matin d'Action Grâce, c'est que nous pouvons tous se lever et déclarer par la foi cette grande déclaration d'Action Grâce avec David, que je sois près des eaux paisibles ce matin ou que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Rien, il est mon berger, je suis comblé, rassasié, satisfait. On peut se dire ce dimanche d'Action de grâce avec l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 4. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, il est possible. Il est possible d'avoir le bonheur. Il est possible d'avoir le contentement aujourd'hui. Il est possible, dans le sort dans lequel on est, d'être heureux. Je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. C'est la reconnaissance et de reconnaître que Jésus est avec moi. Et si Jésus est avec moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Encore l'apôtre Paul en 1 Timothée, chapitre 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Combien ont la nourriture ici ce matin? Hein? Combien parmi nous mangent? Vous mangez à tous les jours. Hein? Il y en a qui mangent un peu plus que d'autres. La nourriture n'est pas mon problème. On a la nourriture. Combien ont des vêtements ce matin? Hein? Combien sont venus à l'église vêtus? Levez vos deux mains. 100% des gens. Bon, selon l'apôtre Paul, si nous avons la nourriture et si nous avons les vêtements, ça suffit. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous pouvons trouver le contentement et le bonheur. Si nous avons d'autres choses, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessaire. La piété avec le contentement. Je suis heureux, même si j'ai pas toutes les richesses dans le monde, parce que j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça suffit, selon l'apôtre Paul. Hébreux chapitre 13. Il dit, contentez-vous, de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est exactement ce que David a dit. Il dit, je suis content, je suis libre de la crainte, de la convoitise, du manque, parce que le Seigneur est avec moi. Contentez-vous avec ce que vous avez, parce que le Seigneur a dit, je ne vais jamais vous laisser, jamais vous abandonner. Et si nous avons Jésus, nous sommes riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Combien de personnes riches avons-nous ici ce matin? On est riches, non par rapport à notre compte de banque, mais par rapport à la présence de Jésus. Ancien Testament, Nouveau Testament, ça nous enseigne la même chose. C'est le refus d'être occupé, préoccupé par qu'est-ce que je n'ai pas, et à partir de ce moment, je vais rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai Jésus, l'Éternel est mon berger. Si on a un sentiment de manque, c'est correct si ça nous pousse vers Jésus. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Mark, es-tu en train de dire qu'on ne peut pas avoir des désirs, des ambitions, des rêves? Non, c'est pas ça du tout. C'est correct d'avoir des désirs. C'est correct d'avoir des rêves ou des ambitions. Ce n'est pas mal. Moi, je peux désirer des choses. Je peux désirer des belles vacances. Je peux désirer une belle voiture. Je peux désirer une augmentation de salaire. Je sais que Luc Poirier est dans le bâtisse à quelque part. Je peux désirer une amélioration de mon sort. Je peux désirer de voyager le monde. On peut avoir des ambitions, on peut avoir des rêves, on peut avoir des désirs. Mais la différence entre un désir et un manque, c'est que mon bonheur et ma joie ne dépend pas sur si je les obtiens ou pas. Je peux les désirer, mais si je les ai pas, je ne serai pas découragé, je ne serai pas déprimé. Je veux dire, j'ai le Seigneur Jésus-Christ et ça suffit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la différence. Jésus est ma portion, il est mon pain, il est mon eau et ma provision. Je suis libéré du tourment du manque. J'ai, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content. Quel état d'âme? Je ne manquerai de rien. Jésus me suffit. C'est l'état complet de la reconnaissance et la gratitude. Et cet état de gratitude et d'action de grâce n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui dans ces derniers jours. Car selon l'apôtre Paul, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 4. L'apôtre Paul nous donne une description sociologique des derniers jours. Et il dit, dans les derniers jours, on va avoir des temps difficiles. Mais ça va être des temps difficiles, non par rapport à des pressions extérieures, mais des pressions à l'intérieur. Parce qu'il va y avoir une crise dans les derniers jours, une crise de caractère, de moralité, d'intégrité, de comportement. L'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des gens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, et continue. Une description sociologique des jours dans lesquels on vit. Les derniers jours, les crises d'intégrité et de moralité. Mais dans la liste des choses qu'il dit ici, il dit non seulement que les gens vont être blasphémateurs, fanfarons, hautains, rebelles, mais ils vont être ingrats. L'apôtre Paul dit qu'il va avoir une génération, dans les derniers jours, une génération de personnes ingrates. Et j'espère que ce ne serait pas moi, ce serait pas nous. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est d'être des gens de gratitude dans une société d'ingratitude. Et si la majorité est ingrate, moi je cherche à être reconnaissant. C'est pour cela que je vous invite ce matin à être des rebelles. Je vous invite à la rébellion, à devenir une rebelle. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, ce sont des rebelles et la sainte rébellion. Parce que la rébellion veut dire quoi? D'aller à l'encontre des tendances populaires, contraires à la masse, différents que les autres. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est des rebelles reconnaissants. Toute cette génération peut être ingrate, mais moi, je veux avoir la reconnaissance et l'action de grâce, et moi j'arrive à l'église le dimanche matin, et peu importe la semaine que j'ai passée, je refuse l'ingratitude, je refuse la critique, je refuse d'être découragé. Moi je vais être un rebelle à la société, moi je vais applaudir le Seigneur et louer le Seigneur, et moi je vais avoir une vie distinguée par merci Jésus pour mon salut, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. On applaudit le Seigneur parce qu'il est bon, il est bon, il est grand, il est fidèle. Combien de rebelles avons-nous ici ce matin? On veut être rebelles, on veut être différents. On veut être des gens de gratitude dans une société d'ingratitude. Je désire faire partie de la minorité reconnaissante. Je désire faire partie du 10% comme le seul lépreux qui est retourné pour rendre grâce dans l'histoire de Luc 17. Où est-ce que 10% a rendu grâce? Luc chapitre 17, l'un d'eux, 10 lépreux, l'un d'eux se voyait guéri. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain et Jésus prenait la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La foi et l'action grâce, ça va ensemble. Il y en a juste 1 sur 10, 10% qui sont revenus pour dire merci à Jésus. Et la foi mêlée avec l'action grâce, ça dit que sans Dieu, je n'aurai pas qu'est-ce que j'ai. Je ne serai pas guéri ou restauré ou sauvé. Et qu'est-ce que nous voulons faire ce matin? Ce dimanche d'action grâce, c'est on veut courir vers les pieds de Jésus. On veut se lancer envers lui avec passion et enthousiasme comme ce seul lépreux et pour dire merci, merci, merci. J'étais comme un lépreux, sans espoir, perdu, sale et corrompu, mais tu m'as aimé, touché, guéri, purifié, restauré. Je ne manque plus rien, ni la paix, le calme, le sommeil, la confiance pour l'avenir. Alors je cours vers tes pieds, Jésus, et je dis merci pour qui tu es et ce que tu as fait. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Merci Jésus. C'est ce qu'on veut faire. C'est l'action de grâce. On veut faire partie de la minorité reconnaissante. On veut faire partie de ces 10% qui ont dit merci Jésus pour ce que tu as fait. Alors j'invite les musiciens en avant. Terminez dans un instant. Alors je vous souhaite une chose. Je vous souhaite une chose pour ce dimanche d'action de grâce. Je vous souhaite Jésus. Point. C'est profond, n'est-ce pas? Wow, Jésus! Je vous souhaite une chose pour votre vie. C'est que votre vie soit vécue dans l'action de grâce et la reconnaissance par la présence de Christ qui est avec vous. Alors, ce que je vous souhaite ce dimanche matin, pour vous libérer de la convoitise, pour vous libérer du manque, pour vous libérer du tourment des choses que vous avez perdues, c'est que je vous souhaite la personne de Christ, Jésus. Non d'une façon cliché, c'est tellement facile à dire ça, je vous souhaite Jésus. Soyez bénis avec la présence de Christ, pas ça. Mais je vous souhaite Jésus d'une façon non cliché, comme une platitude, mais d'une façon réelle. Je vous souhaite Jésus ce matin d'une telle façon que ça va faire une différence. Ça va faire une différence dans votre cœur, vos pensées, votre motivation, vos passions, ambitions, vos rêves, votre approche à la vie, le ministère, votre approche aux autres. Je vous souhaite, Jésus, une telle façon que ça va changer la façon que vous priez, ça va changer votre adoration, la façon que vous étudiez la parole de Dieu. Je vous souhaite, Jésus, d'une façon que ça va combler tous les trous dans votre cœur. Que Jésus comble tous vos désirs, qu'il rencontre tous vos besoins, qu'il soit votre point central, qu'il soit votre raison d'être. Je vous souhaite Jésus comme votre amour, votre amoureux, pour votre passion, votre force motivatrice. Je vous souhaite d'arriver à la place pour dire avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De rien, parce que j'ai Jésus. C'est ce que je vous souhaite, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur juste pour un instant d'action de grâce? Dans quelques instants, Sébastien va nous conduire dans ce chant qu'on a chanté. Béni soit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Sébastien ne savait pas sur quoi je prêchais, mais le chant est parfait. Parce que ça dit, je vais bénir le nom du Seigneur quand ça va bien et quand ça va mal. Je vais bénir le nom du Seigneur quand je suis sur la montagne, mais je vais le bénir aussi quand je marche dans le désert. C'est ça l'action de grâce. C'est ça qui va bannir la crainte, la convoitise, les soucis, les inquiétudes, ce sentiment de manque que nous avons, peut-être depuis qu'on est un enfant. Ça va libérer du tourment des choses qu'on n'a pas atteint encore ou ce qu'on n'a pas arrivé. On va avoir des ambitions, des rêves et des désirs, mais notre joie et notre bonheur ne dépendra plus sur ces choses-là. Nous allons être contents, rassaisis dans le bonheur et le contentement par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever nos voix tous ensemble et nos mains et juste rendre grâce au Seigneur et dire merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour la vie éternelle. Je suis peut-être rien qu'un chien aux yeux des autres, mais j'ai la vie éternelle. J'ai la vie abondante. Je suis précieux à tes yeux. J'ai peut-être pas toutes les richesses du monde, mais je suis riche par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur que je suis bien aujourd'hui et je serai bien demain. Je suis bien dans le présent et je serai bien dans le futur. Je manque de rien et je ne manquerai de rien. Je veux te louer Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Chantez-le tous ensemble. Nous voulons prendre un instant, c'est l'action de grâce. C'est le dimanche pour merci le Seigneur qu'on peut terminer avec un moment de célébration, de louange et d'adoration et de reconnaissance envers le Seigneur et sortir des ténèbres, sortir des ténèbres, sortir des ténèbres, qu'on ne soit plus égaré, mais sur le bon chemin de la louange et l'action de grâce. Chantez-le tous ensemble. Béni soit le nom de l'Éternel. Chantez-le.
Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je veux te louer.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.